vous l'évoquiez donc, il a également parlé d'un autre sujet, le sujet d'ouvrir un débat sur l'instauration d'un devoir de visite des pères dans les familles monoparentales et non pas juste un droit de visite comme ce qui était mis en place jusque-là. Lui, il veut un devoir de visite des pères. On écoute Emmanuel Macron, il s'est exprimé dans une courte vidéo.
Quand il y a un père, il faut qu'il exerce tous ses devoirs et que la maman, quand elle est dans cette situation-là, puisse exiger des visites régulières. Elle doit pouvoir s'assurer que le père aussi, il est auprès de l'éducation nationale, dans les réunions parents-prof quand il faut, et qu'il est partie prenante de l'éducation de l'enfant. C'est un devoir d'être parent et c'est un devoir qui ne s'arrête pas au moment du divorce ou de la séparation. Ah, moi, je suis sûr qu'il faut un père, une mère, il faut une famille aimante. Et après, il y a des familles dans nos modèles, mais il faut que, en effet, les parents exercent leurs responsabilités, et les deux. Et je pense qu'il faut que, d'abord, on change culturellement dans la société et qu'on se dise, voilà, être père, parce que c'est jamais le cas pour les mères, mais être père, ça s'arrête pas au moment de la séparation du couple, et c'est un devoir. Et donc, je pense que, y compris pour l'enfant, c'est mieux.
Et on va en parler avec nos invités, Élodie Mulon sur ce plateau, avocate spécialiste en droit de la famille. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et on sera également avec Sonia Jabri, maman de deux enfants, maman qui élève seule ses deux fils. C'est bien deux fils, hein, c'est ça ? En Meurthe-et-Moselle ?
Alors, c'est un fils
et une fille, pardonnez-moi. Bonsoir à vous Sonia Jabri. Juste avant, on va faire le point avec Edgar Becquet sur ce que la loi dit actuellement. Actuellement, c'est un droit de visite et non pas un devoir de visite, Edgar.
C'est ça, le droit de visite, pour rappeler très brièvement, le droit de visite déjà, c'est lorsque l'enfant qui a des parents séparés ne vit pas en résidence alternée. Ce droit permet au père ou à la mère qui n'a pas obtenu la garde de son enfant de maintenir des liens réguliers avec lui. Il est fixé soit à l'amiable, soit il est fixé par un juge si il y a un conflit. Il faut aussi différencier le droit de visite et le droit de visite et d'hébergement. Déjà, pour le droit de visite simple, eh bien, cela consiste à passer une partie de la journée avec son enfant, puis de le ramener à l'autre parent, au domicile de l'autre parent en fin de journée. Et puis, il y a aussi le droit de visite et d'hébergement. Ça permet de voir un peu plus l'enfant. Là, le parent qui n'a pas la garde principale de l'enfant peut l'accueillir chez lui, deux jours comme de nuit sur une période déterminée. Ça peut être un week-end sur deux ou la moitié des vacances scolaires.
Il peut être libre, Edgar, l'enfant, d'aller chez sa mère ou chez son père ?
Alors, l'enfant ne peut pas décider lui-même s'il veut aller chez l'autre parent ni de la durée. En revanche, il peut donner son avis. Il peut également demander à être entendu par un juge des affaires familiales si une procédure est engagée par les parents.
Alors justement, il y avait un aspect qu'on voulait revoir ensemble également, c'est qu'il parle d'un devoir de visite pour les pères, particulièrement pour les pères, parce que ce sont les mères qui, dans la majorité des cas, ont la garde des enfants dans les familles monoparentales. Le chiffre est assez parlant.
Oui, Julie, en France, il y a près de 2 millions de familles monoparentales et dans plus de 8 cas sur 10, dans 84% des cas, les enfants résident chez leur mère. Comme je vous le disais il y a quelques instants, les pères qui n'ont pas la garde de leurs enfants peuvent leur rendre visite grâce au droit de visite, mais aujourd'hui la loi ne prévoit pas certaines obligations. Par exemple, il n'y a pas d'obligation pour les parents qui n'ont pas la garde principale de leur enfant d'assister par exemple aux réunions parents-prof. C'est ce qui pourrait notamment changer avec le devoir de visite évoqué par le président.
Merci beaucoup Edgar Becquet. Donc transformer le droit de visite en devoir de visite. Élodie Mulon, votre regard d'avocate spécialiste en droit des familles, c'est du bon sens?
En fait, c'est un débat, on pourrait en parler, ça paraît extrêmement simple comme ça, mais on pourrait en parler pendant des heures. D'abord, je suis assez contente de voir que le président de la République s'intéresse aux familles. Il ferait bien de commencer par s'intéresser à la justice familiale, parce que en réalité, si les décisions étaient plus adaptées, on aurait bien souvent moins de difficultés à les faire exécuter. Et là, le sujet aujourd'hui, puisque si on parle d'une obligation, c'est qu'il y a un problème d'investissement et d'implication du parent, c'est des décisions qui sont pas du tout adaptées. On a 5 minutes pour s'expliquer quand on a le temps de s'expliquer. Les parents sont pas entendus. Enfin, c'est vraiment du grand n'importe quoi avec des juges qui sont très motivés et un manque de moyens terrible. Donc, je pense que au lieu de s'interroger sur la dire droit ou devoir, il devrait multiplier les moyens donnés à la justice familiale. Oui, ça doit être un devoir, mais en réalité, c'est un droit pour le père à l'égard de la mère, puisque la mère, parfois, fait obstacle au droit du père. Ça arrive. Et ça doit être un devoir. Et c'est un droit de l'enfant d'être vu par, enfin, de voir son père. Mm-hmm. Et c'est un devoir du père. Ça doit être un devoir du père à l'égard de la mère. Et je vais en dire deux mots, mais je pense que la maman en parlera des difficultés quand le père ne vient pas, mm-hmm. sans prévenir, évidemment. Et c'est un devoir à l'égard de l'enfant. Et aujourd'hui, alors il faut arrêter de parler de droit de garde parce que ça n'existe plus depuis 1987, je crois. C'est vraiment, il n'y a plus de garde. Et justement, ça c'est vraiment important parce que cette notion de garde, je veux dire, conduisait un sentiment de propriété chez les mères qui pour le coup était assez exclusive du père. Donc c'est vraiment qui a la résidence habituelle. Il peut y avoir une résidence alternée aussi, et qui a la portion congrue.
Mais il y a beaucoup d'hommes, à l'heure où on parle, enfin, il y a beaucoup de pères, pardon, qui, n'honorent pas leur droit de visite, refusent d'aller voir leurs enfants dans ces cas de familles séparées.
Alors, il y a plus de pères aujourd'hui, me semble-t-il, alors c'est peut-être mon expérience, qui essayent de voir plus leurs enfants que de pères qui, je suis pas spécialement pro-père, je le dis tout de suite, j'ai à peu près autant de clients femmes que d'hommes, qui n'exercent pas leurs droits. En fait, il faut s'interroger sur pourquoi ils le font pas. Ils le font pas parfois juste pour emmerder la mère, faut être très clair, pour garder le contrôle sur elle. Il y en a beaucoup qui font ça, en ne venant pas au dernier moment.
C'est une façon de garder le contrôle sur elle?
Ah bah oui, parce que quand vous dites oui, je vais venir, et puis qu'elle est obligée de rester chez elle jusqu'à 21h, parce que surtout si elle bouge, elle est en tort. Il faut quand même le dire. Elle peut être accusée de non-représentation d'enfant. Donc elle est chez elle, et puis elle peut pas partir, puis elle attend, et puis le gamin, il attend avec ses valises. Enfin, c'est, voilà. Et ça, c'est vraiment une violence psychologique, pour le coup. Et puis il y a des pères qui peuvent pas parce que matériellement c'est pas possible. Il y a des pères qui ne peuvent pas parce que encore une fois la décision n'est pas adaptée. Il y a des pères qui sont découragés. Puis alors il y en a qui s'en foutent complètement. Et on se demande pourquoi on leur a donné ce droit-là.
Mais vous dites que ces pères-là qui s'en foutent, ils sont minoritaires en fait.
Ils sont minoritaires.
Il y a une majorité de pères qui aimeraient mais qui ne peuvent pas.
Oui, et en réalité, il y a une disposition auquel on ne pense pas et qu'on attache, et moi-même dans ma pratique que je pense surtout, d'ailleurs j'ai relu le texte correctement, vous voyez, quand j'ai vu ça ce matin, dans la pratique, il y a la possibilité, le juge a l'obligation de garantir la continuité du lien avec les parents, de l'enfant avec les parents, et a la possibilité d'assortir sa décision d'une astreinte. Et en pratique, nous on pense souvent à cette obligation pour la mère qui ne remet pas l'enfant. Et en réalité, les juges pourraient assortir l'obligation, enfin le droit de visite et d'hébergement du père, d'une astreinte, de 500 euros à chaque fois qu'il ne vient pas voir l'enfant. Je vais vous dire, ça va les calmer tout de suite.
Sonia Jabri, vous êtes avec nous. Vous élevez donc vos deux enfants seuls en Meurthe-et-Moselle. Et vous faites partie de ceux qui défendaient ce devoir de visite des pères à la place d'un simple droit de visite, c'est ça ?
Alors oui, c'est ça, mais de façon plus globale, j'essaye d'apporter un débat non genré en parlant d'un parent et de l'autre parent, sans incriminer les pères. Je rejoins complètement le discours de l'avocate dont j'ai oublié le nom, je suis
Élodie Mulon sur le plateau.
Voilà, Maître Mulon, sur beaucoup de sujets, et j'irai même plus loin sur l'amont, c'est-à-dire que je pense qu'il y a vraiment besoin d'un accompagnement dans la mise en place de la parentalité pour éviter les situations que l'on rencontre sur les séparations délicates qui impliquent les enfants et qui font se déchirer les parents qui se séparent. Il y a besoin d'apprendre à être parent. Et donc, je suis effectivement à l'initiative d'une proposition de loi appuyée par Thibaut Bazin sur ce délit de non-exécution du droit de visite et d'hébergement.
Député Les Républicains de Meurthe-et-Moselle.
Oui, en essayant justement de réguler la sanction, puisqu'il y a sanction en cas de non-présentation de l'enfant sur un texte de loi, donc l'article 227-5, en reprenant exactement les mêmes sanctions, l'objectif étant d'inciter, de garder le lien parent-enfant, et toutes les problématiques qui ont été citées, les difficultés de parents à voir leur enfant parce que les mères se servent des enfants comme armes, c'est aussi des choses qui doivent être réglées, et pour ce faire, je pense vraiment qu'il faut travailler en amont sur la mise en place d'un parcours de parentalité.
Le texte de la proposition de Thibaut Bazin, le député Les Républicains dont vous parlez, dont vous soutenez la mesure, prévoit une peine d'emprisonnement d'un an et une amende de 15 000 euros si le devoir de visite n'est pas respecté. On a envie d'en savoir un peu plus sur vous. Alors, vous me dites si je pose des questions trop personnelles, mais racontez-nous, vous, vos difficultés. Vous vous êtes retrouvés à élever seuls vos deux enfants, c'est ça ?
Alors, je suis maman de deux enfants. Mon fils est déjà grand, donc il vit un peu chez son père et chez moi. Donc, je suis maman d'une enfant polyhandicapée, ce qui est une circonstance aggravante. Mais nous avons l'intelligence avec mon ex-mari d'essayer de s'entendre au mieux. La difficulté, ce n'est pas un combat personnel. On ne porte pas une proposition de loi sur un conflit personnel, mais sur un constat général d'amis, de famille, et ce, depuis des décennies.
Donc, c'est pas vous qui avez eu des problèmes, c'est pas votre ex-conjoint qui n'a pas été assez présent, c'est ce que vous dites?
Non, c'est pas ça. C'est vraiment, je suis une citoyenne qui a mis le doigt sur un vide juridique et sur une problématique réelle, et j'essaye simplement de faire changer les choses à mon niveau.
Christophe Barbier, bonne idée d'instaurer un débat autour de ce devoir de visite des pères?
En tout cas, idée qui fait débattre, parce qu'on tire ce fil et on voit beaucoup d'autres problèmes, on voit toute cette complexité. Qu'est-ce qu'il y a au fond de cela? C'est la recherche d'une égalité entre des parents qui ont eu des enfants puis qui se séparent, c'est la vie, une égalité pour continuer à assumer la responsabilité de l'éducation des enfants et à porter ce qu'on peut appeler parfois la charge mentale que ça peut représenter. Oui, c'est ce qui, par exemple, anime aussi la réforme du congé paternité-maternité. On recherche à avoir une égalité de libération du temps pour que, dès la naissance, les parents partagent le temps passé à servir l'enfant. Et dans ce cas-là, il va falloir aussi remettre en question beaucoup de choses. Et là, je veux mettre le doigt sur quelque chose qui fâche. Dans les décisions de justice, le président de SOS Papa, tout à l'heure, nous le disait, très souvent, la justice, entre guillemets, favorise la mère, donne la priorité à la mère. Il nous disait, quand il y a une demande de résidence alternée, elle est attribuée le plus souvent quand la mère est d'accord. Si la mère n'est pas d'accord, la justice suit la mère, même si le père insiste. Il va falloir aussi retravailler cela.
Ah, alors, je sais que ça
soulève beaucoup de débats, mais il faudra se dire que il y aura le droit des papas va devoir être aussi mieux pris en compte. Il y a les pères défaillants, pension alimentaire ou devoir de visite. Et puis, il y a les pères réclamants qui voudraient faire plus et qui n'obtiennent pas cela. Alors, bien sûr, quand il y a eu des cas de violence, la justice doit mettre des barrières. Mais sinon, donc notre société doit aussi prendre cela en compte. Mais je me fais l'avocat du diable.
Juste la réponse quand même de l'avocate sur ce plateau. Il faut faire évoluer aussi le droit des pères.
En fait, il y a un problème de parité. Il y a un problème de parité. Alors les mères, enfin maintenant, il y a vraiment les juges examinent vraiment je veux dire si la résidence alternée est conforme à l'intérêt de l'enfant, avec c'est vrai encore une prime faite à la mère. Et en fait, ce qui est difficile dans notre société, c'est qu'on nous parle de la parité homme et femme, on nous parle pas de la parité père et mère. Et en fait, c'est mauvais pour les femmes. Parce que tant qu'on, je veux dire, il y a un poids encore sociologique et social sur la femme aujourd'hui qui n'a pas son enfant et qui est même dans une résidence alternée qui n'est pas acceptable. Et tant que les juges conduiront ce mouvement en étant aussi réticents à laisser la place au père, et il y a des pères qui se révèlent après la séparation, c'est triste, mais c'est comme ça. Eh bien, en fait, on aura toujours une société où la femme sera moins bien traitée que l'homme sur le marché du travail. Donc, voilà, elles ne peuvent pas se laisser vraiment le droit de ne pas être des mères à 100%.
Pierre-Edouard Magnan.
Oui, c'est-à-dire, enfin, si on voulait aller au bout, alors d'abord, je note que comme d'habitude, on veut faire une réforme et une loi, alors que finalement, il y a aujourd'hui les outils qui permettraient d'obtenir le même résultat en donnant des moyens plutôt qu'en créant de nouvelles lois.
C'est très français.
La règle de l'astreinte, c'était très intéressant cet exposé de départ, parce que ça permet, comme d'habitude, de constater que finalement, on veut faire des choses qu'on est déjà capable de faire. Le deuxième point, effectivement, la problématique, c'est qu'il y a un changement de mentalité et de culture. On reste encore culturellement la mère et l'enfant.
Institutionnellement.
Moi, le CHU de Rouen, d'où je viens, la maternité, ça s'appelle encore le pavillon de la mère et de l'enfant. Ce qui est juste un symbole que
avec j'ai des sages-femmes.
Mais normal,
vous savez bien que c'est pas lié. Les hommes sont sages-femmes. C'est bien, Christophe.
En tout cas,
il y a un sujet de culture et de mentalité, y compris chez les juges, y compris dans les familles, y compris chez les mères et chez les pères, qui est à changer évidemment très fort. Parce que derrière, ça a évidemment un impact, et vous l'évoquez, je réagissais là-dessus, évidemment très fort. Quand une majorité de mères ont des enfants, surtout si elles sont jeunes, on sait que ça va peser sur leur vie personnelle, ça va peser sur leur vie professionnelle. Et finalement, le bout du bout, c'est de développer bien davantage qu'elle est aujourd'hui, puisque d'ailleurs, je crois que c'est la résidence alternée, l'hébergement égalitaire. J'ai appris que c'est l'expression en Belgique. Je trouve l'expression très jolie. L'hébergement égalitaire, en tout cas la résidence alternée, que ce soit ça qui devienne petit à petit la règle pour aussi amener tout le monde. Oui, on ne peut pas s'en aller à 1000 km quand on est enfant avec quelqu'un. On se sépare, on ne peut pas forcément s'en aller à 1000 km.
L'intérêt de l'enfant n'est pas toujours de la résidence alternée.
Évidemment,
ça, effectivement,
beaucoup de psychologues le disent.
Montrent qu'effectivement, parce que ça, c'est aujourd'hui la tendance dans cette logique égalitaire, ce qu'il faut primer, c'est l'intérêt de l'enfant. Et l'intérêt de l'enfant, quelquefois, c'est justement d'avoir une résidence stable avec effectivement un meilleur droit de visite. Ça, c'est sûr. Par contre, où c'est sociologique, c'est que nos institutions, de toute manière, ont aussi évacuer le père, l'école et peut-être l'institution où ça a été le plus loin. C'est-à-dire que très souvent, les communications, elles se font, y compris quand il y a des couples séparés, elles se font que en destination de la mère. Il y a très peu d'établissements qui font l'effort vraiment d'avoir une communication vis-à-vis de tout le monde. Alors ça existe, oui, mais c'est quand même assez, c'est encore assez nouveau. Et ça, effectivement, ça devrait être normalement la norme pour imposer ça. Et après, effectivement, inventer encore une loi alors qu'on n'en a pas besoin, je crois que là, c'est surtout Emmanuel Macron, encore une fois, comme pour Gérard Depardieu, il a encore trouvé, et c'est le concours de l'épine aujourd'hui, de faire le buzz, le meilleur marché, c'est-à-dire un sujet. Il aurait pu parler des moyens de la justice, mais ça coûte de l'argent. Là, au moins, en débattant sur le droit de visite obligatoire,
après,
ça coûte pas d'argent.
Il y a peut-être des outils à notre disposition. Pour autant, on voit que tout ça n'est pas encore appliqué. Donc peut-être qu'il a raison aussi d'insister sur un point qui reste visiblement défaillant.
Il est président de la République, il a un gouvernement. C'est pas la peine de faire une interview dans le L s'il y a des mesures qui doivent être appliquées.
Ce que je pense, c'est que contrairement peut-être à ce qu'il croit, Emmanuel Macron ne se rend pas service à lui-même quand il fait ce genre de déclaration. Parce que c'est encore un gadget, et c'est aussi ce qu'on appelle dans les pays anglo-saxons, j'écris dans un média anglo-saxon, ça m'a pourri le français, je dirais, c'est le nanny state, c'est l'état nounou. L'idée qu'on va rentrer dans le plus intime de la vie des gens, même dans des situations de crise comme le divorce, qui peuvent aller vraiment dans tous les sens, y compris, on n'en a pas parlé, des pères qui sont violents et à qui il faut au contraire interdire de flanquer la...
Ça, c'est une des limites d'ailleurs.
Je voudrais finir. On n'a pas à détailler de façon qui de toute façon ne satisfera personne parce que ça ne correspond pas à un texte, mais lancer essentiellement la balle dans la roulette qui tourne pour annoncer encore une mesure qui est un truc de plus. J'ai l'impression que les Français se trouvent oppressés d'une miniaturisation de tout ce qui les concerne, d'une intrusion à tous les points de vue, ce que vous avez le droit de consommer, ce que vous devriez faire, ce que vous devriez acheter, ce que vous ne devriez surtout pas faire, etc. Et que là, Emmanuel Macron, en faisant ça, parce qu'il pense que bon, je suis à elle, et donc puisque je suis à elle, je vais parler d'un truc qui touche les femmes, et je pense que politiquement, c'est quelque chose qui lui fait du tort.
De s'immiscer trop, c'est ça, dans la vie privée.
Prendre des aspects de plus en plus spécifiques, et brusquement, on a la voix du président qui est tout de même une voix importante, qui devrait être une voix magistrale. On peut essayer de penser à François Mitterrand en d'autres temps, et ne pas s'exprimer sur tous les détails de, comme on l'a dit tout à l'heure, et je suis ravie que Pierre-Olivier Magnan l'ait dit avant moi, qu'en réalité, on a tout ce qu'il faut comme appareil législatif, on n'avait pas vraiment besoin de cette intervention.
Si, pour agiter la société.
Elle est assez agitée comme ça.
Il y a deux sujets. C'est d'abord, il faut savoir, est-ce que c'est au président de la République s'exprimer sur des sujets aussi techniques, et aussi, ça c'est un autre débat. On ne peut pas dire que c'est un non-sujet qui n'a pas d'importance, parce qu'il y a vraiment des millions de mères qui attendent que le père soit obligé, et les plante pas tous les vendredis, une fois sur deux, ou la veille des vacances. Donc ça correspond à un vrai besoin. Maintenant, je pense que l'avoir limité à ce terme, droit ou devoir, c'est vraiment un peu... le petit bout de la lorgnette, donc c'est peut-être politique. Et ce que moi j'espère très sincèrement, c'est que enfin ils se rendent compte que la famille, quelle que soit sa forme, c'est un socle important, qui consacre des moyens enfin à la justice familiale et qu'on réfléchisse plus largement à l'organisation de la vie de l'enfant, parce que c'est quand même vraiment le plus important, dans des familles qui ont besoin de la loi. Parce qu'il faut voir l'état dans lequel les gens sont dans la séparation. Ils sont complètement paumés. Et la loi, et la précision de la loi, est quelque chose d'important.
Et donc, Emmanuel Macron qui souhaite instaurer un débat, d'ailleurs, ça veut dire quoi, ça, concrètement? Ça peut prendre quelle forme?
Eh bien, des parlementaires qui déposent des propositions de loi, les organisations administratives, sociales, sociétales, les associations qui peuvent s'en mêler. Et puis voilà, pourquoi pas une convention citoyenne à un moment donné?
Une autre.
Pour de la famille.
Une autre convention citoyenne.
N'oublions pas dans ce débat aussi la place des beaux-pères et des belles-mères, parce que parfois il y a une présence
qui n'ont aucun statut légal.
Il y a eu un début, il y a eu des évolutions, et on pourrait associer cela. On pourrait associer cette réflexion.
Mais il y a un texte.
Il y a un texte. Merci beaucoup Élodie Mulon d'être venue sur ce plateau nous voir. Et je ne sais pas si elle est toujours avec nous, mais merci aussi à Sonia Jabry qui était avec nous depuis la Meurthe-et-Moselle. Merci beaucoup à vous également. Vous avez regardé, comme tout le monde, j'imagine, les images de Marseille cet après-midi.
J'ai regardé là tout de suite parce que j'ai travaillé tout l'après-midi, oui.
Vous avez travaillé.
Et jours fériés, c'est fait pour ça.
C'est le moment où on peut travailler tranquille, en fait.